et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de débat sur Amcamgram. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet dont j'avais déjà parlé sur LinkedIn et qui a suscité pas mal de réactions. C'est la question de l'account management et de l'usage. Et en fait, j'avais posé cette fameuse question qui est si votre client, vous en tant qu'account manager, vous voyez un client qui utilise seulement 10% des fonctionnalités du SaaS auquel il a souscrit et pour lequel donc il paye, et que ce client est super content du partenariat, est-ce que vous allez le considérer comme un user, donc un utilisateur de votre produit, ou est-ce que vous allez le considérer comme un client à risque? Bref, quel sera votre comportement en tant qu'account manager envers ce client? Donc, pour m'aider à répondre à cette question qui demande plus que quelques likes et quelques commentaires sur LinkedIn, je pense, j'ai le plaisir d'avoir deux spécialistes de l'usage pour m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Donc, toi, Sophie, tu es Customer Success Manager chez Side depuis moins d'un an. Side, c'est la première plateforme d'intérim en France. Et pour t'accompagner, nous sommes également avec Mathieu. Alors Mathieu, la superstar, hein, parce que tu étais là depuis le début d'Amcamgram. Donc, je suis trop contente que tu sois revenu au micro. Épisode 2, donc c'est assez fou. Toi, Mathieu, tu es toujours global, enfin toujours, mais c'est déjà super, global key account manager chez Skello depuis un an et demi maintenant. Skello, c'est un outil de gestion de planning du personnel chez les commerçants et les pros. Donc, je vous laisse à présent vous présenter ou représenter pour Mathieu.
Bonjour à tous les deux et puis merci Darina pour cette belle présentation. Donc, moi, c'est Sophie, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis CSM chez Side avec un focus particulier sur le retail. Donc, j'interviens au niveau de l'onboarding des nouveaux clients. Mon but, ça va vraiment être de les fidéliser, de résoudre toutes leurs problématiques opérationnelles et bien sûr de faire grandir les partenariats. Avant ça, j'avais déjà travaillé dans un environnement startup chez Freenow qui, à l'époque, s'appelait Chauffeur Privé. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de mettre un premier pied dans l'univers digital et startup que j'adore. Au niveau de mon plat détesté d'Arena.
Allez, dis-le.
Alors, moi, c'est tout ce qui est à base d'haricots. Donc, typiquement, ouais, c'est assez bizarre. Typiquement, le cassoulet, les flageolets, un chili con carne, je ne peux pas. Et au niveau des passions, j'adore la course à pied. Ça fait longtemps que je la pratique. Et là, plus récemment, je m'intéresse de plus en plus à l'œnologie. Donc, je sais, ça peut paraître deux choses un peu paradoxales, du coup. Mais c'est vrai, c'est le cas.
Donc, tu cours dans les vignes?
Non, j'ai pas cette occasion parce que j'habite à Paris, mais ça pourrait être une belle expérience.
Why not? Merci beaucoup, Mathieu.
Bonjour à toutes les deux. Bonjour Darina, bonjour Sophie. Ravi d'être là à nouveau. Merci pour l'invitation. J'étais dans les tout premiers. Maintenant, tu es à plus de 80 épisodes, donc ça va très vite. Mais je suis très content de revenir. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis en charge donc de la partie plus acquisition de grands comptes chez Skello. J'ai un passé plus dans l'agroalimentaire et plus précisément chez Nespresso où j'ai fait plus de 7 ans dans des fonctions commerciales, depuis des postes de responsable de secteur jusqu'à justement des postes de compte manager. Donc, je vais plutôt faire appel à ces expériences pour parler de suivi de clients, même si aujourd'hui, chez Skello, dans l'univers SaaS, il y a clairement toutes ces problématiques et ces enjeux que nous sommes en train de structurer dans l'entreprise. Donc, très content d'être là et super content de participer sur ce thème assez challenging. Donc, je suis vraiment ravi. En ce qui concerne mes plats détestés, alors je t'avais parlé du poisson barbecue la première fois dans les plats que j'adorais. plats détestés, ça va être plutôt être tout ce qui est betterave, tu vois. Ça, c'est vraiment les choses qui passent pas de mon côté. Donc, j'aime beaucoup de choses et voilà, c'est vraiment le plat que j'arriverai pas à manger. Et pour passer à tout ce qui est passion, de mon côté, c'est plutôt tout ce qui est foot, sport en général, hein, mais foot, course à pied et puis évidemment musique, puisque je pratique le piano depuis que je suis tout petit. Donc, voilà, grosso modo, mes passions et ce qui m'anime.
On a pas mal de passions en commun sur la course à pied. Je vous défie lors du déconfinement d'aller faire un petit tour ensemble.
Avec plaisir.
Bon, bah, très chouette. Alors donc pour revenir sur notre autre passion en commun qui est l'usage, on va faire un peu de zèle, non, l'usage dans la partie account management au global. Avant de répondre à la fameuse question des 10%, je voudrais savoir comment est-ce qu'on va mesurer l'usage, le taux d'utilisation de notre solution par le client.
Bah c'est une très bonne question. En fait, pour moi, c'est le fond un peu du problème, c'est de savoir quand tu as mentionné ce thème-là sur une utilisation à hauteur de 10%, c'est l'enjeu, c'est de comprendre voilà à quoi correspondent ces 10%. Est-ce que l'utilisation de l'outil se fait sur des fonctions clés et des fonctions clés surtout pour le client? Est-ce que le client a finalement ce qu'il est venu chercher en utilisant cette solution en utilisant les fameux 10% évoqués? Est-ce qu'on est vraiment dans une réponse à un besoin, comment est-ce qu'on arrive à justement à quantifier ça? C'est là en fait tout l'enjeu et de comprendre comment est-ce qu'on va accompagner son client sur l'atteinte de ses objectifs finalement. Donc, on répondra à la question un peu plus tard, mais de prime abord, c'est vraiment ça l'enjeu pour moi, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est utilisé dans l'outil et est-ce que finalement on est dans l'atteinte de ses objectifs et est-ce qu'on répond à son besoin en utilisant cette portion de l'outil en fait. Donc en effet, c'est cette question de savoir qu'est-ce qui est utilisé, est-ce que ça répond vraiment aux besoins. Je me rappelle quand tu as posé la question sur LinkedIn, il y avait un exemple assez parlant sur l'utilisation de YouTube. Donc après, c'est aussi dans quel contexte on se place. Est-ce qu'on est vraiment dans un contexte B2C où l'utilisateur est clairement déjà de fait un user et dans son quotidien, est-ce qu'il l'utilise? Ben, en effet, je trouvais que l'exemple de YouTube était assez parlant et je me retrouvais pas mal dedans où j'utilise vraiment qu'une infime partie de la plateforme, mais de par aussi la concurrence et le peu de solutions alternatives que l'on va avoir, ben, du coup, les 10% qu'on utilise vont complètement répondre aux besoins. Et c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à se détacher d'une utilisation comme une plateforme YouTube. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas, en termes d'outils qu'on utilise au sein de Skello, un outil comme Salesforce, qui est un outil qui est ultra complet. Et je pense que les entreprises, du coup, ne contractualisent et n'utilisent, une fois qu'elles ont acheté déjà une partie de l'outil, à mon avis, une partie assez infime de tout ce que peut proposer Salesforce. Pour autant, ce qu'on utilise est capital et nous permet quand même de centraliser de la donnée sur nos clients, de l'analyser de manière assez fine et intuitive via des rapports. Donc, c'est vraiment aussi en fonction du contexte dans lequel on se positionne que ces 10% prennent un sens particulier en fait.
Ah oui, moi je rejoins complètement Mathieu sur ça. Par rapport à la quantification, je pense qu'évidemment, il y a des outils qui permettent de le faire, notamment nous chez Side, on utilise beaucoup Looker, qui permet d'avoir des données hyper précises sur l'utilisation. Après, je pense aussi, et je parle en tant que CSM, c'est vraiment le rôle d'un CSM d'avoir une proximité avec son client et comprendre de quelle manière il utilise le produit, comprendre pourquoi il n'utilise que 10%, est-ce qu'il connaît toutes les fonctionnalités, est-ce qu'il ne trouve pas satisfaction dans certaines fonctionnalités. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel que le CSM doit être en mesure de détecter. Et ça peut être justement le moment de refaire un tour de passe sur le produit, de reformer le client. Et voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne trouve pas satisfaction dans l'utilisation de son produit, mais simplement c'est hyper important d'essayer de comprendre pourquoi. Et je pense que du coup on va en reparler dans la suite, mais je rejoins complètement Mathieu sur ça.
Et quand on parle de 10%, est-ce que peut-être que les 10% pour nous, pour l'entreprise qui a créé le SaaS, représentent en fait 100% de l'intérêt du client en fait?
Exactement. Moi, je me positionnerai. C'est un vrai sujet aussi. C'est de Et le piège, c'est d'être trop centré sur son propre produit, surtout dans ce milieu du SaaS où en effet on peut avoir une solution tout à fait complète, mais la difficulté, c'est justement de savoir qu'un produit unique peut répondre de différentes façons aux différents besoins clients que l'on va avoir dans son portefeuille. Et c'est là en fait tout l'enjeu, hein, c'est d'être capable et être sur tous les niveaux du maillon de la chaîne, aussi bien sur de l'acquisition, sur la compréhension du besoin, que ensuite sur tout ce qui est suivi via l'onboarding, via le travail des account managers et CSM. L'enjeu, c'est de savoir voilà, quel est le besoin du client, comment est-ce qu'on l'aide justement à y répondre, et finalement, peut-être que là, le contrat est pleinement rempli à partir du moment où on est dans cette réponse aux besoins, que ce soit à 5, 10, 15, 50% de notre application. Après, évidemment, il y a des sujets sur le prix, sur l'accompagnement, sur l'expérience. Tout ça, c'est ce qui va graviter autour de la solution. Mais juste sur l'usage, finalement, je reviendrai un peu au basique sur la réponse à un besoin client, tout simplement.
Complètement par rapport à ce que tu disais sur la personnalisation, je pense que c'est hyper important de comprendre vraiment de quelle manière l'utilisateur utilise finalement le produit. Et ce qui peut être bien aussi, et nous c'est ce qu'on fait aussi chez Site, c'est de répartir un peu les tâches entre les différents utilisateurs pour que le produit finalement soit ancré dans les process et devienne indispensable pour l'ensemble de l'entreprise. Mais effectivement, c'est très important d'être à l'écoute et de comprendre finalement quelle est la meilleure manière d'utiliser le produit en ayant un pied chez le client et l'autre dans le produit.
Ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir qui est satisfait chez le client. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'utilisateur et puis il y a aussi le décideur. Donc après, plus les comptes sont importants à travailler, plus ça va être complexe et du coup, bon, intéressant évidemment de comprendre où sont les enjeux. Est-ce que la satisfaction, elle doit passer par les utilisateurs? Est-ce que la satisfaction, elle doit aussi évidemment se trouver au niveau des personnes qui vont décider, qui vont gérer le contrat et avec qui on doit sécuriser le business? Et c'est là où après, il y a tout un enjeu sur le compte management et sur la gestion pour ma part de la partie plutôt grand compte. C'est là où le multi-user et le multi-décideur va être hyper intéressant à travailler sur une satisfaction globale envers la solution. Et chacun a des enjeux différents, chacun a des besoins différents à son niveau. Et c'est là où il faut être bon sur bien comprendre le niveau de satisfaction de chacun pour en tirer finalement une conclusion au niveau du compte.
Du coup, si je comprends bien, là, tu vas mesurer non pas le pourcentage d'utilisation du nombre de fonctionnalités de ton produit, mais plutôt le pourcentage de satisfaction dans le sens, est-ce que là où les briques qui sont utilisées par chacun des utilisateurs dans ton organisation répondent à leurs besoins?
Exactement, exactement. Et alors bon, c'est très vrai chez Skello, hein. On a un outil donc qui facilite la gestion du personnel, mais ça va passer par des items sur de la planification pour mettre les bonnes ressources au bon moment. Nous, on a un parti pris qui est sur de l'ergonomie, donc forcément, on est hyper attentif au retour des utilisateurs parce qu'il faut embarquer justement les opérationnels. Mais de l'autre côté, on travaille sur des sujets RH où il y a des départements paye où on doit leur faciliter le travail, eux, ils ont certainement d'autres enjeux. Donc en fait, en fonction que ce soit les opérations, les ressources humaines, la DSI en termes de sécurité, en fait, tous ces gens-là vont avoir, même au niveau de leur fonction, vont avoir des enjeux et des attentes différentes. Et puis ensuite, il y a voilà, ce que tu évoquais sur la partie strate, hein, depuis l'utilisateur opérationnel jusqu'au décideur siège, il faut que chacun finalement y trouve son compte et j'ai envie de te dire, même dans la satisfaction, si les utilisateurs utilisent que 10% mais que les décideurs sont satisfaits de l'approche globale qu'on a de la solution, ça ne sera pas forcément un client à risque. Après, à nous de l'accompagner, à nous de créer plus de valeur, mais bon, ça on va peut-être le traiter après.
Non, bon, on va le traiter maintenant. Pourquoi est-ce que le client va utiliser que partiellement le produit ou peut-être mal utiliser le produit, je ne sais pas.
Moi, pour répondre à cette question, je dirais d'abord que ça dépend de l'onboarding. C'est hyper important d'onboarder correctement le client. Et ça, pour moi, ça passe par deux choses. C'est d'abord de maîtriser soi-même le produit pour être à même de vraiment répondre à toutes les questions liées à l'utilisation. Et aussi savoir onboarder, donc être un bon démonstrateur, avoir vraiment des étapes dans la démonstration, s'appuyer sur des images concrètes du produit, pour garder le client captif et être sûr qu'il voilà, d'optimiser cette démonstration et du coup optimiser l'utilisation du produit. Donc voilà, je pense que ça peut être une des causes de la mauvaise utilisation. Et encore une fois, il faut toujours essayer de comprendre les raisons de cette mauvaise utilisation. Ça peut être aussi que l'utilisateur n'est plus le bon. S'il y a eu un turnover dans l'entreprise, la passation a mal été faite. Donc, il faut reformer la personne. Et ça, encore une fois, sans la proximité avec le client, bah, on n'est pas forcément au courant. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour assurer cet usage de garder tout le temps le contact avec le client. Après, évidemment, il y a le contact avec l'automatisation des campagnes mail, etc. Mais un contact direct, que ce soit par téléphone ou par mail, pour être au courant de tout ce qui se passe en fait, au sein de l'entreprise et être au point sur tous les utilisateurs, c'est hyper important pour assurer l'usage.
Et quand tu les reformes, tu fais quoi? Tu leur fais un petit QCM à la fin pour voir s'ils ont bien compris ou...
Non, ça dépend. En fait, il y a plusieurs manières de former. En tout cas, chez Side, moi, je fais toujours une démonstration en temps réel. Donc vraiment, pas forcément un partage d'écran, mais vraiment les guider, le faire en même temps qu'eux pour qu'ils puissent le refaire ensuite après tout seul. Mais on utilise aussi des outils comme Loom, par exemple, qui permet de créer facilement des tutoriels vidéo avec des commentaires derrière. Et je pense qu'un bon complément des deux, c'est ce qui est efficace. Après, vraiment, ne pas hésiter à redemander, est-ce que tout est clair, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez repasser. Mais je pense qu'une démonstration en temps réel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Je suis assez d'accord avec toi, Sophie. Il y a évidemment un vrai enjeu. Alors moi, je vais même aller un peu plus loin sur les racines de cette mauvaise utilisation. Puis je vais prêcher pour ma paroisse sur la partie acquisition, mais tout part aussi de l'identification du besoin, évidemment. Et l'enjeu, c'est de savoir, on va mettre de côté ce qu'on s'est dit au début, le cas où finalement le client qui utilise 10% est satisfait et il trouve son compte. C'est vrai qu'en général, c'est une situation qu'on n'aime pas trop puisque on la considère comme fragile et comme justement améliorable. L'idée, c'est de bien découvrir son besoin et de bien identifier justement comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner ce client. Et il y a un vrai enjeu que je redécouvre un peu dans ces environnements. Ça, comme la vente est assez segmentée, il y a un enjeu de passation d'informations aussi entre le sales qui va faire la chasse, l'onboarder qui va s'assurer des premières formations et puis ensuite le compte manager qui va suivre le client dans le temps. Et je ne sais pas si on a ce prisme un peu commercial justement d'être toujours en quête de répondre aux besoins à tous les niveaux et dans le temps aussi, dans tout l'accompagnement qu'on va proposer aux clients. Et c'est comme ça aussi que l'expérience, ben, peut-être, elle va être optimisée, elle va s'enrichir et on va essayer d'éviter de passer à côté de certaines fonctionnalités clés pour le client. Et justement, bah, d'agrandir un peu ce spectre de passer de 10 à 50% de la plateforme, même s'il n'y a pas vraiment de recherche et d'objectifs chiffrés. Hein. L'idée, encore une fois, c'est d'être vraiment toujours dans cette adéquation entre ce que recherche ce client et ce qu'on va lui apporter. Mais après, je rejoins pas mal Sophie sur tous les canaux qui vont être proposés. Il y a aussi toute une réflexion qu'il faut avoir sur comment est-ce qu'on accompagne le client. Il y a eu des débats sur ça d'ailleurs, je crois, hein, Darina, sur le présentiel ou à distance, sur combien de touchpoints on doit avoir dans l'année. Enfin, et tout ça va rentrer aussi en ligne de compte sur l'optimisation de l'utilisation du client sur la plateforme proposée. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et alors, si on essaye d'apporter en fait, une réponse ou en tout cas des éléments de réponse à la lumière de vos expériences, est-ce que ce fameux client qui utilise seulement 10% des fonctionnalités et qui est satisfait avec ça représente un risque de churn? Comment est-ce que vous allez aborder la situation avec ce client-là? Peut-être toi, Sophie, puisque tu es plus dans le suivi
oui.
Après coup.
Tout à fait. C'est vrai qu'à partir du moment où il trouve vraiment satisfaction dans la valeur du produit, pour moi, je ne le considère pas comme un client à risque, mais évidemment, c'est à surveiller parce que s'il n'utilise que 10%, c'est qu'il y a peut-être... quelque chose qui n'a pas été perçu dans la valeur du produit, et c'est justement le moment pour moi, et encore plus en tant que CSM, de refaire un tour, de peut-être refaire une formation, peut-être qu'il n'est pas au courant, je sais pas, des nouveautés, parce qu'il y a toujours, la plateforme évolue toujours, donc voilà, c'est important, et surtout prendre ses retours, être proactif dans les retours, évidemment en gardant une cohérence avec la roadmap produit, donc Ça, c'est aussi quelque chose d'important, ne pas s'engager sur des évolutions, mais vraiment être à l'écoute pour ouvrir l'esprit sur de nouvelles pratiques, sur de nouveaux process. Mais voilà, pour moi, à partir du moment où il trouve satisfaction, et c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être pour nous, on perçoit 10% d'utilisation, mais peut-être que pour lui, ça représente 90%. Pour moi, non, ce n'est pas un client à risque, mais à surveiller et justement en profiter pour représenter le produit. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important.
Et puis peut-être que quand tu vas représenter le produit, tu vas détecter des nouveaux besoins chez le client et ça va reboucler la boucle, en fait.
Complètement, complètement. Après, je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'améliorer le produit, finalement, de détecter, comme tu dis, de nouveaux besoins et d'être à l'écoute. C'est ça qui fait évoluer, je pense, le produit, finalement.
Je te rejoins complètement, Sophie. Et l'idée, c'est d'être assez proactif dans le suivi du client, parce qu'il y a aussi un risque quand on est après au compte manager, et c'est ce qu'on voit aussi nous chez Skello, et ce qu'on essaie vraiment d'éviter au maximum, c'est de tomber plus dans du support. Et donc là, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plus compliqué de détecter de nouvelles opportunités avec ce client, peut-être des besoins qu'on n'aurait pas identifiés et qu'on pourrait accompagner sur justement des nouvelles fonctionnalités à utiliser. Et je pense que plus on va être proactif dans l'approche et la démarche et la rythmique qu'on va mettre en place aussi avec son client, plus ça te permet de rentrer dans de l'analyse, dans de la proposition. Tu as aussi un rôle d'expert marché et sectoriel que tu peux avoir. Et c'est aussi, après évidemment, ça c'est une belle théorie, dans la pratique c'est toujours un peu plus complexe, mais plus tu vas avoir d'outils et d'informations sur ton expertise de secteur, un benchmark que tu peux faire avec d'autres clients, c'est aussi, à le compte manager de suggérer, de proposer et de driver un peu cette relation pour justement donner des pistes et de montrer un peu la voie en fait au client sur tout le reste qui va s'offrir à lui et qui va peut-être aussi créer de la valeur pour lui en fait.
Ouais, mais si en tant qu'account manager, tu fais comprendre au client qu'il n'utilise que 10% de la solution, est-ce qu'il ne va pas justement être frustré et dire moi ce que j'utilise ça me convient très bien, mais en fait j'ai l'impression de trop payer pour ce que c'est. Est-ce qu'une des solutions peut-être de business model, ce serait de faire payer ton logiciel par brique? Enfin, je pose la question.
À l'usage, tu veux dire?
Ouais, ou même par brique, tu vois. Je pensais au logiciel Luca, qui est un logiciel de gestion RH. Et eux, ils ont 8 modules. Donc, en fait, tu n'achètes que les modules qui t'intéressent, en fait. C'est un peu à la carte. Comme ça, au moins, t'es pas frustré.
C'est une solution. Tu vois, chez Skello, il y a un an, on avait un produit unique. Aujourd'hui, je reviens, on a une offre sous forme de pack, justement, qui va regrouper des périmètres fonctionnels qui vont être différents. Et l'idée, c'est ça, c'est de s'adapter aux besoins clients. Mais c'est vrai que moi, je replaçais finalement cette problématique dans le pack que tu vas choisir. Même si tu choisis, à partir du moment où tu choisis l'offre qui te semble te correspondre, tu as toujours de la latitude pour améliorer et optimiser l'utilisation. Du coup, on analyse pas mal justement cette partie-là avec un peu sous forme de cluster. Et c'est comme ça qu'on arrive à segmenter nos clients et de savoir quels sont ceux que l'on va pouvoir accompagner. Et justement, on attache beaucoup d'importance, en tout cas chez Skello, à être force de proposition, justement. Ce qui ne veut pas dire qu'on dévalorise l'utilisation et qu'on va expliquer au client, vous êtes monsieur à 10% de votre potentiel, vous payez très cher pour ce que vous en faites. Non, au contraire, c'est de dire, regardez, vous êtes en recherche de tel ou tel item, il y a cette fonctionnalité qui pourrait vous accompagner sur votre approche et pour répondre encore une fois à ces besoins identifiés.
Comment ça se passe chez Side?
Alors, chez Side, ça ne se passe pas de la même manière. On ne fonctionne pas par brique ou par pack. C'est vraiment une plateforme qui est très simple d'utilisation. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, en tant que CSM, je vais mesurer l'utilisation plus aux actions qui sont faites. Donc après, c'est des choses qui sont très liées à l'intérim. Mais voilà, est-ce que les heures ont bien été déclarées? Est-ce que les contrats ont bien été signés? Est-ce que les missions ont été correctement postées? Et du coup, ça arrive très souvent de devoir justement reformer la personne sur l'utilisation. Mais en termes de prix, on ne fonctionne pas par brique. Donc, c'est compliqué de mesurer de cette manière-là l'utilisation. Mais c'est vrai que je rejoins encore une fois Mathieu. On va difficilement dire à un client, vous n'utilisez que 10% de la plateforme, ça ne va pas du tout. Mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question en toute transparence.
Ouais, non, mais c'est vrai que ça dépend
Ça dépend
de...
du produit, en fait. Je pense que ça dépend vraiment de la complexité du produit et des différentes fonctions qui sont apportées. C'est vrai que chez Sage, justement, on a une plateforme qui est simplifiée au maximum, justement, pour simplifier l'intérim, qui est quelque chose d'assez administratif de base. Donc voilà, la question n'est pas prise du même angle, quoi.
Du même angle, ouais, tout à fait. Bon, bah du coup, si je comprends bien, ce client qui utilise, selon nous, l'outil à 10% n'est pas forcément un client à risque, et au contraire, c'est un levier d'opportunité et de croissance. Si je comprends bien ce que vous me dites tous les deux, à la fois, il va falloir détecter cela, alors avec les différents outils de CRM que vous utilisez, et ensuite prendre contact proactivement avec votre client, lui proposer une reformation et en profiter pour creuser sur ses manières de faire. La manière dont ils travaillent pour voir si potentiellement, bah, tenez, vous procédez de la sorte, bah, moi je pourrais complètement vous aider avec telle fonctionnalité que vous ne connaissez pas encore et à laquelle vous avez accès dans le cadre voilà, de votre abonnement, par exemple, à notre SaaS. Ça va, j'ai bien résumé la
Parfait.
réponse. Bon, bah, top. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin?
Moi, je suis super contente d'avoir fait ce podcast. C'était la première fois pour moi, contrairement à Mathieu, qui est expert du sujet avec toi, Darina, apparemment.
Oui.
Vraiment, c'était une
Non.
super, super expérience pour moi.
Ouais, bah écoute, plaisir partagé aussi, hein, très content d'être revenu, toujours des sujets très intéressants à traiter. Écoute, merci et puis hâte d'écouter les prochains épisodes aussi avec tes invités.
Allez, à bientôt. Ciao. Merci.
Salut. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessus.